L'inflation baisse officiellement, les journaux télévisés affichent des graphiques super rassurants, avec des courbes qui pointent bien vers le bas, mais...
Mais le ticket de caisse à la sortie du supermarché, lui, il refuse obstinément de baisser.
Exactement. C'est vraiment le paradoxe absolu de notre économie actuelle. Les chiffres célèbrent une belle accalmie, tandis que les foyers continuent de ressentir une tempête glaciale sur leur pouvoir d'achat, quoi.
C'est un décalage très brutal au quotidien.
Et c'est justement le thème de notre exploration profonde d'aujourd'hui. Pour plonger dans ce qu'on appelle les forteresses invisibles de l'économie, on va s'appuyer sur un dossier très riche, publié le 8 juin 2026 par LODJ Media.
Une source d'information majeure, ouais.
Absolument. Et pour donner une idée à notre auditoire de la résonance de cette enquête, ce groupe de presse marocain a touché plus de 100 millions de personnes au premier trimestre 2026 avec une explosion phénoménale sur Instagram, atteignant 34,8 millions de vues.
C'est vertigineux comme chiffre.
Quand un sujet économique génère un tel trafic, c'est qu'il touche un nerf extrêmement sensible dans la société.
Complètement. En fait, l'audience massive de cette enquête montre bien que le décalage entre les discours macroéconomiques et la réalité des rayons, c'est devenu la préoccupation centrale des citoyens.
Carrément.
L'enquête met en lumière une douleur un peu silencieuse, celle d'une population qui ne comprend tout simplement plus comment se forment les prix des produits les plus basiques.
Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de pointer du doigt au hasard, mais bien de décrypter la mécanique implacable qui s'opère entre la terre de l'agriculteur et le frigo du consommateur.
Oui, il faut vraiment dépasser les explications superficielles. Je suis prête à dissiper quelques illusions avec vous.
Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre pourquoi la facture reste si douloureuse, il est d'abord indispensable de briser une puissante illusion d'optique.
Celle créée par les chiffres officiels.
Exactement. Il y a une confusion fondamentale, presque sémantique en fait, entre la désinflation et la baisse des prix. Les institutions adorent brandir le mot « désinflation » en disant que, par exemple, l'inflation est passée de 6% à 1%.
Et là, le cerveau humain, qui est naturellement optimiste, entend le mot « baisse ».
C'est ça. Sauf que, mathématiquement, un passage de 6 à 1%, ça signifie que les prix augmentent toujours.
Ce qui est fascinant ici, c'est cette nuance cruciale qui génère une énorme frustration. La vraie question n'est pas le ralentissement de la hausse, mais le fait que les prix refusent obstinément de redescendre.
Même une fois la tempête internationale passée, ouais.
Exactement. Les prix continuent d'escalader la montagne, ils le font simplement en marchant au lieu de courir. Le dossier montre très bien que le choc initial subi en 2022 et 2023 n'était pas une simple parenthèse.
Il y a eu des causes très réelles à ce moment-là.
Ah oui. Des facteurs réels et brutaux. Une sécheresse persistante qui a ravagé les rendements agricoles, des tensions géopolitiques mondiales perturbant toutes les chaînes logistiques.
Sans oublier la flambée historique des coûts de l'énergie et du transport maritime, quoi.
Tout à fait. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce choc a rendu les prix, en quelque sorte, irréversibles.
Pour illustrer ça de façon claire pour ceux qui nous écoutent, imaginons une voiture sur l'autoroute. Elle roule à 100 km/h, ce qui représente notre pic d'inflation.
D'accord.
Et soudainement, le conducteur lève le pied de l'accélérateur et la vitesse tombe à 80 km/h. C'est ça, la désinflation.
Elle ralentit, oui.
La voiture ralentit, mais n'a absolument pas enclenché la marche arrière. La marche arrière, ça serait la déflation, une vraie baisse effective des prix. Dans la vraie vie, la voiture continue d'avancer et les prix continuent de s'accumuler.
C'est une excellente image.
C'est pour ça que les consommateurs ont un peu l'impression d'être victimes d'une forme de gaslighting économique quand le journal de 20h annonce de bonnes nouvelles.
Aux variations climatiques, comme les frais de santé ou même les fournitures scolaires au moment de la rentrée.
Ah oui, les cahiers et les stylos, ça n'a rien à voir avec la pluie, en effet.
Voilà. Et une fois que ces prix ont franchi un certain seuil, ils s'y installent confortablement. Les entreprises s'habituent à ces nouvelles marges. Un retour en arrière devient presque impossible.
C'est là que l'impact social devient hyper lourd. Le dossier de l'ODJ Media s'attarde longuement sur la classe moyenne qui est prise dans un étau monumental.
Un étau, c'est le mot.
D'un côté, il y a ce mur de dépenses contraintes, le loyer, l'électricité, la nourriture qui flambe et refuse de baisser. Et de l'autre, des revenus qui stagnent désespérément.
Oui, les salaires ne suivent pas la courbe de la tomate.
Non, le salaire n'est pas indexé sur le prix de l'huile ou du mouton. Cette équation impossible, elle crée un lourd sentiment de déclassement social.
C'est une angoisse très profonde. Des familles qui travaillent dur ont l'impression de glisser lentement vers la précarité. L'inflation est terriblement régressive.
C'est-à-dire qu'elle frappe les plus vulnérables en premier.
Absolument. Quand une famille doit arbitrer entre acheter des protéines pour ses enfants ou payer l'électricité, la statistique nationale qui annonce une baisse de l'inflation, elle est inaudible.
C'est clair. Et du coup, vu que la crise mondiale sur les matières premières s'apaise pas mal, si les prix restent hauts, le problème est à l'intérieur de nos frontières, non ?
C'est la conclusion logique. Le cœur du problème se trouve dans les rouages intimes de la logistique locale.
Et ça nous amène physiquement sur le terrain, la longue route vers l'assiette.
Une route très encombrée.
Ouais. À la lecture du dossier, on réalise que le scandale se joue à quelques kilomètres à peine de nos supermarchés, dans cette fameuse chaîne de distribution.
Reprenons le voyage à sa source. À la base, l'agriculteur, c'est lui qui assume la quasi-totalité des risques réels.
Le stress hydrique, la météo capricieuse.
Oui, et il finance les semences, il paie des engrais toujours plus chers. Et pourtant, en raison de son besoin urgent de liquidité et souvent de l'absence de zone de stockage sur son exploitation, il est en position de faiblesse absolue.
Parfois, il vend même à perte juste pour que sa récolte ne pourrisse pas sur place.
C'est tragique. Mais entre le moment où cette caisse de légumes quitte son champ et atterrit sur le marché en ville, elle traverse toute une série d'écluses financières.
Une vraie cascade d'intermédiaires. On a d'abord le collecteur local qui passe dans les fermes, puis le grossiste régional, le transporteur, le semi-grossiste urbain et enfin le détaillant de quartier.
Et à chaque étape, la marche s'accumule.
Concrètement, une tomate vendue presque rien par le paysan voit son prix tripler, voire quadrupler, juste en voyageant sur 150 km. Et dans ce système, des mots précis sont nés pour désigner ceux qui profitent de cette opacité.
Les chanaks et les farrechia, oui. C'est devenu le vocabulaire populaire pour désigner ces opportunistes.
C'est fascinant comme la langue s'adapte à la crise.
Ces termes décrivent ce qu'on appelle l'économie de la emza, l'opportunité de gain rapide. Ces acteurs ne créent aucune valeur agricole ou logistique. Leur modèle repose sur l'exploitation de l'urgence et de l'asymétrie d'information.
L'asymétrie, c'est le fait que personne ne connaît le vrai prix ?
Voilà. Le producteur ignore le prix de vente final en ville et le consommateur ignore combien le paysan a été payé. Au milieu, ces intermédiaires achètent bas, stockent, parfois illégalement pour créer la pénurie, et revendent avec d'énormes coefficients.
Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Faut faire attention à pas diaboliser tout le monde. Hein.
Ah, je vous écoute.
Une mégalopole moderne de plusieurs millions d'habitants. Techniquement, elle a besoin de logistique. On ne peut pas se nourrir juste avec des petits paysans vendant à l'arrière d'une camionnette.
Bien sûr, c'est impensable.
Il faut des camions frigos, des entrepôts, des chaînes de froid. Tout ça, c'est un coût réel, en énergie, en main-d'œuvre. On a besoin de ces intermédiaires.
Et c'est une nuance fondamentale. Le problème soulevé par le dossier n'est pas l'existence de l'intermédiaire en soi. L'infrastructure logistique, c'est vital. Le problème, c'est la distinction entre l'intermédiaire utile et l'intermédiaire parasite.
D'accord.
L'utile, il apporte une valeur ajoutée. Il trie, il sécurise, il achemine la marchandise sans qu'elle s'abîme. Le parasite, lui, ne fait que prélever une rente de situation. Il pose un pérage invisible sur un produit qui allait de toute façon vers la ville.
Le péage de l'ombre, ouais. Et justement, cette opacité de la chaîne logistique, ce flou artistique, c'est le terreau idéal pour un autre phénomène hyper puissant, la gridflation.
L'inflation par la cupidité. Un terme très à la mode, mais très réel.
C'est exactement ça. C'est utiliser le prétexte d'une crise mondiale légitime, genre une guerre, pour augmenter ses marges locales de façon totalement disproportionnée.
C'est de l'opportunisme pur. L'opinion publique s'attend à une hausse des prix à cause du journal télévisé et certains en profitent. Si le transport justifie une hausse de 10%, ils augmentent le prix final de 30%.
C'est fou. C'est comme le fameux brouillard de la guerre. Tant que l'attention des gens est fixée sur les crises internationales, certains acteurs cachent discrètement des frais dans la facture. Ils savent que le consommateur est trop embrouillé pour identifier le vrai coupable.
Et le jeu des accusations commence. Le producteur accuse le transport, le détaillant accuse le grossiste, tout le monde se rejette la faute.
Personne n'assume la marge abusive. Et ce brouillard s'épaissit encore plus pendant ce que la source appelle les saisons de la spéculation.
Oui, l'opportunisme n'est pas linéaire tout au long de l'année.
Non, ça frappe lors de moments précis, quand la demande devient inélastique. Le ramadan, l'Aïd, la rentrée scolaire de septembre, ou même de grosses intempéries.
Des moments où les familles ont l'obligation sociale ou vitale de consommer. Les spéculateurs savent que le client achètera quel que soit le prix, par pure nécessité. Là, la moralité économique disparaît totalement.
Et la nécessité du citoyen se transforme en marge brute pour le spéculateur, direct. Mais du coup, ça pose une question de fond qui divise la société.
Un vrai débat idéologique.
D'un côté, on a les défenseurs du libre-marché total. Pour eux, les prix doivent flotter selon l'offre et la demande. Fixer des prix, ça déréglerait tout et créerait des marchés noirs.
Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cet argument a du poids. L'histoire a montré que l'administration rigide des prix mène souvent à des pénuries chroniques.
Ouais, l'Union soviétique et compagnie.
Mais de l'autre côté, d'autres voix exigent une régulation stricte. Ils affirment qu'un marché libre sans règles sur des produits de première nécessité, ça devient la jungle. Les monopoles dictent leurs lois et le risque d'explosion sociale devient imminent.
Et nous, on ne prend aucun parti. On rapporte juste que cette tension est énorme.
Tout à fait. Le dossier reste très factuel sur ces deux visions opposées de l'économie.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Face à ce marché pris au piège, qui a le pouvoir de nettoyer ces circuits ?
La solution pointée par l'enquête, c'est le retour de l'État régulateur. Pas pour administrer bêtement les prix et tuer l'initiative, mais pour instaurer de la transparence et casser les monopoles.
Et la modernisation d'un truc clé, ce que la source appelle les « forteresses invisibles ».
Ah oui, une expression frappante pour désigner les marchés de gros.
C'est ça. Des immenses zones où transitent des tonnes de nourriture, mais dans une pénombre financière totale. Beaucoup de cash, pas de facture électronique détaillée. Les prix se font loin des regards.
C'est impératif de moderniser ces espaces. Mais quand on parle de réprimer les abus dans ces lieux, tous les regards se tournent vers le Conseil de la concurrence.
L'arbitre ultime, quoi. Sauf que les citoyens sont souvent super frustrés par la lenteur de cette institution.
Et cela soulève une question importante. Le public veut des sanctions immédiates sur un coup de colère social. Mais l'état de droit ne fonctionne pas comme ça.
Comment ça fonctionne, du coup ?
Le Conseil de la concurrence ne peut pas agir sur une simple vidéo virale. Il doit mener des enquêtes techniques approfondies, définir le marché pertinent, analyser des milliers de documents pour prouver juridiquement l'entente illégale.
Prouver qu'il y a eu un vrai complot sur les prix, et pas juste le hasard de la crise.
Exactement. S'il sanctionne sans preuve béton, les tribunaux annuleront tout et l'État perdra toute crédibilité. Cela prend des mois, voire des années.
Et c'est là qu'on touche à une tragédie quotidienne. L'urgence de nourrir sa famille aujourd'hui se heurte de plein fouet au temps juridique extrêmement lent. Comment on concilie le temps du frigo vide avec le temps des tribunaux ?
C'est très dur. Mais une économie saine à long terme repose sur des règles juridiques solides, pas sur des punitions arbitraires. C'est pour cela que les solutions durables proposées vont vers des réformes de fond.
Comme la création de coopératives ?
Oui, regrouper les petits agriculteurs pour qu'ils puissent se payer des camions frigorifiques ensemble. Ça supprime les collecteurs informels et redonne du pouvoir aux paysans face aux grands grossistes.
Il y a aussi les achats groupés pour les consommateurs, la digitalisation des circuits. On voit bien que l'idée, c'est de supprimer les intermédiaires inutiles.
En résumé, ce qu'il faut retenir de cette vaste analyse, c'est que la désinflation n'est pas la baisse des coûts. C'est une chaîne de distribution trop longue et la culture de la spéculation festive qui étouffe la classe moyenne.
Tout à fait. La transparence réglementaire est la seule arme qui protège la liberté économique sans écraser les foyers.
Comprendre l'anatomie d'un prix en rayon, savoir qu'un kilo de tomates raconte l'histoire d'une bataille entre agriculteurs et spéculateurs, c'est reprendre une forme de pouvoir.
C'est clair. Pour quiconque navigue dans l'économie d'aujourd'hui, ça permet d'être un acteur averti et de diriger sa colère vers les vrais blocages, pas vers des boucs émissaires.
La clarté avant tout.
Et pour terminer, je voulais lancer une petite provocation intellectuelle basée sur la source. Le dossier suggère la digitalisation pour assainir le marché.
D'accord. Imaginons la suite.
Imaginons le futur proche. Et si l'adoption d'applications de circuits courts connectant directement le smartphone de l'acheteur au champ du paysan finissait par rendre les chénakas techniquement obsolètes ?
Ça détruirait complètement ces forteresses invisibles ?
Mais oui, par la seule force de l'algorithme. La technologie pourrait-elle réussir à imposer la moralité que la loi a tant de mal à faire respecter ? Je laisse ça en suspens pour encourager la réflexion de notre auditoire. À la prochaine pour une nouvelle plongée. Restez curieux.